le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Et c'est donc la reprise du magazine citoyen pour cette année 2025 sur Radio Rythme Bleu. Et pour ce premier numéro de l'année, on va s'intéresser à France Volontaire. Autour de la table, Marjorie Botella, responsable de l'antenne France Volontaire en Nouvelle-Calédonie. Nous sommes aussi avec trois volontaires, Noah, Nathanaël et Alexia. Bonjour à toutes les quatre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce midi pour présenter ce dispositif qu'on connaît tout de même en Nouvelle-Calédonie. Mais peut-être recommencer par resituer le cadre. Qu'est-ce que France Volontaire? Quelles sont les missions de solidarité que vous proposez?
Oui, d'abord merci de nous avoir invités à cette émission. Donc, France Volontaire est une plateforme de volontariat international sous l'égide du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On a un statut de GIP aujourd'hui et on a pour objectif de promouvoir le volontariat de solidarité et d'échange international. On a 28 représentations dans le monde, dans des pays différents, et une antenne en Nouvelle-Calédonie depuis 2012 maintenant. Donc voilà, l'histoire avec la Nouvelle-Calédonie date. Et puis voilà.
C'est vrai que si on en parle aujourd'hui, c'est pas un hasard, c'est parce qu'il y a aussi une campagne de recrutement en ce moment. Vous cherchez des volontaires, vous proposez 9 missions dans la région.
Oui. Alors particulièrement, et c'est déjà ce qu'on a commencé à faire depuis 2-3 ans, on développe des missions de coopération régionale dans le Pacifique. Là, sur cette vague de recrutement, c'est des missions Pacifique Sud avec essentiellement, pour la plupart des missions au Vanuatu et deux nouvelles missions en Nouvelle-Zélande.
Ok, donc ça concerne quel type de mission concrètement? Quels sont les domaines?
Alors, avec des domaines dans la culture, et la préservation du patrimoine, dans le domaine de la musique, dans le domaine de l'agriculture, de l'agroforesterie, de l'appui linguistique et le développement de la francophonie. Donc les domaines sont un peu larges.
Voilà. Concrètement, quel est le profil des candidats et des gens qui sont volontaires?
Profil de candidat entre... Alors, on peut postuler à partir de 18 ans. La plupart du temps, nos profils ont entre 20 et 30 ans. On a deux dispositifs spécifiques. Un qui s'appelle le VSI, le Volontariat de Solidarité Internationale, qui demande une technicité ou un bagage un peu spécifique dans un domaine. Donc souvent, ça peut être un bac plus 2 ou un bac plus 3 dans le domaine. Et puis, on a des missions de service civique international qui sont plus... centré sur des offres de mission pour tous, où là, la mobilisation, la motivation, le centre d'intérêt, voire la passion pour un domaine peut permettre à quelqu'un de se positionner et d'interagir. Les missions de VSI sont des missions qui durent au minimum un an. Quant aux missions de service civique, elles peuvent durer là. Sur cette promo-là, elles démarrent à partir de 8 mois.
Alors peut-être me tourner vers les volontaires maintenant. Alexia, vous avez terminé votre volontariat en Nouvelle-Zélande. Pourquoi vous avez déjà choisi ce parcours et qu'est-ce que ça vous a apporté?
Alors oui, je suis revenue en fin novembre 2024. Ça s'est bien passé, ma mission. Je l'ai choisie un peu par hasard. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma belle-sœur a entendu l'annonce de recrutement à la radio. Et elle m'a proposé de postuler. Et en regardant les missions sur leur site internet, j'ai vu la mission pour Nouvelle-Zélande et j'ai tenté l'aventure. C'était trop beau.
Et justement, c'était quoi cette mission concrètement?
Alors, j'ai postulé sur la mission de chargée d'appui culturel à l'Alliance française de Palmerston North en Nouvelle-Zélande. Donc, ça consistait à s'occuper On peut faire ça en deux parties. Donc, c'est le secrétariat, tous les nouveaux étudiants qui veulent apprendre la langue française. Donc, je m'occupais de leur inscription et aussi des emprunts de nos ouvrages et les retours. Et ma deuxième mission, c'était plus la communication sur nos événements. On organisait des séances cinéma avec des films sous-titrés en anglais, des films français sous-titrés en anglais. Et aussi des conférences à arriver. Donc, il y a eu plein d'autres événements. On a eu un Festival of Cultures où on a fait des crêpes. Donc, autant vous dire que mes crêpes n'étaient pas très belles. Mais on y arrivait.
Donc, on apprend dans tous les domaines.
Voilà, dans la cuisine aussi.
Alors, vous aviez une mission toutes les deux au Vanuatu, c'est ça? Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez choisi cette mission? Peut-être Nathanaël.
Moi, à la base, j'avais postulé pour un volontariat en tant qu'appui à la délégation, au délégué de la Nouvelle-Calédonie. Et ensuite, je n'ai pas été prise pour cette mission, mais on m'a réorientée pour une autre mission en appui à la coopération sur des projets de développement durable dans un lycée français à Brovila.
D'accord. Donc là aussi, le choix de la mission, ce n'est pas forcément le choix de base. Ça a peut-être été un petit peu un hasard et une découverte.
Oui, c'est ça. Et on nous a proposé et ensuite expliqué, présenté le projet et la mission. Donc ça m'a plus parlé. C'est pour ça que j'ai choisi la mission. Voilà, sur ça.
Noah, votre mission
Moi, je suis volontaire au bureau de gestion des catastrophes naturelles au Vanuatu. Et c'est un peu la même histoire que Nathanaël. Je me suis positionnée sur une autre mission. Et puis finalement, mon profil collait plus à cette mission-là. Donc on me l'a suggéré. Et j'y suis pour un an.
Et donc, en plus, vous avez vécu le terrible séisme qui s'est produit au Vanuatu. Et ça a changé votre vision de cette mission, peut-être?
Oui, alors on se préparait déjà aux catastrophes parce que ça fait partie des missions du NDMO. Mais en cas de déclaration d'état d'urgence, le NDMO prend la coordination des opérations de réponse d'urgence. Donc on est au centre de la gestion de crise. Donc oui, ça a pris tout son sens, malheureusement.
Et vous êtes revenus sur le territoire, toutes les deux, du coup, après ce tremblement de terre?
On a été rapatriés, moi, à 6 jours. 6 jours après la date du tremblement de terre.
Et moi, 4 jours après le tremblement de terre.
D'accord. C'est pas un peu frustrant quand on est dans une mission comme ça, dans un territoire, quand on sait qu'il y a des besoins aussi de devoir le quitter?
Oui, parce que quand on arrive dans un nouveau climat, on a notre routine et on a l'habitude de vivre dans ce climat. Et du jour au lendemain, une catastrophe arrive et on est obligé de se faire rapatrier.
Et donc là, vous avez hâte de repartir, je suppose?
Oui.
Oui.
C'est une volonté. Vous savez déjà si vos missions vont changer, liées peut-être à ce contexte régional?
Pour ma part, non. Ça va rester comme ça. Quand je rentre, je sais qu'on va reprendre justement sur les leçons apprises pendant la réponse, la gestion de crise du tremblement de terre. Et on va continuer à se préparer pour la saison cyclonique.
Et pour étant donné que je suis dans un lycée français, je pense qu'on va plus être sur les préventions pour les catastrophes, tout ce qui est exercice pour les tremblements de terre, pour les séismes, pour les cyclones et tout. Et je pense que ça va aider aussi avec ma mission aussi sur les projets de développement durable. Donc,
Alors aujourd'hui, ces missions, vous les voyez comment? C'est un plus personnel, c'est un enrichissement personnel que vous allez chercher, ou c'est aussi peut-être une ligne sur un CV d'un certain nombre de compétences? Qui veut répondre?
Bon, ben, je vais y aller.
Alexia.
Oui, à la base, c'était service civique. Ben, je suis partie pour un service civique international. Donc, je connaissais déjà le dispositif grâce à mes amis qui avaient déjà bénéficié. Donc, là, j'étais plus en recherche d'expérience, pour être honnête. Parce que j'étais en recherche d'emploi. Donc, je voulais l'avoir de l'expérience en plus pour m'améliorer.
Et une ligne comme ça, d'être parti en Nouvelle-Zélande, je suppose que c'est un plus après pour chercher du travail sur le territoire?
Oui, beaucoup. Enfin, je n'ai pas trouvé pour l'instant, mais je sais que ça rajoute de la plus-value à mon profil.
Et vous, c'était plus dans un parcours professionnel, dans un parcours d'études, dans un parcours personnel?
Pour moi, c'était plus pour un parcours personnel. C'est de prendre cette mission en volontariat, c'est plus pour avoir comme une année de césure après les études, voir ce que je veux faire après, peut-être poursuivre, me spécialiser ou rentrer dans la vie active et tout.
Et pour le moment, qu'est-ce que vous en retenez?
Je suis encore à choisir mes options, ce que je veux faire après, soit reprendre mes études dans un autre domaine, ou soit travailler peut-être encore à Port-Vila ou dans un autre pays étranger. Ça motive aussi pour avoir une ouverture et à s'ouvrir à d'autres pays.
Noah.
Et pour moi, c'était une vraie mise en application de ma formation, parce que j'ai un master en gestion de crise et de la sécurité. Donc c'était une expérience hyper pertinente. par rapport à ça, une première expérience dans ce domaine-là. C'est un vrai plus, déjà par l'expérience en elle-même et les gens qu'on rencontre. Le réseau est assez impressionnant au Vanuatu, parce qu'il y a beaucoup d'ONG, des agences de l'ONU et même les départements, enfin le ministère du changement climatique dans lequel je travaille. Les gens ont beaucoup d'expérience, ils sont prêts à la partager, donc oui, c'est une grosse plus-value.
Marjorie Botella, c'est souvent dans le cas dans les gens qui se présentent à vous pour postuler à ce type de mission, des gens qui recherchent aussi une inscription dans un parcours professionnel et un enrichissement personnel ?
Oui, on a des jeunes en fait qui cherchent, alors des fois qui sont déjà dans des parcours associatifs intéressants, où ils ont déjà pas mal d'engagement à la Croix-Rouge ou ailleurs. Donc on a pas mal de profils, on va dire, d'engagés citoyens au sens noble du terme en Nouvelle-Calédonie. Et des jeunes qui, paradoxalement, recherchent aussi un emploi ou une première expérience pour pouvoir se créer un peu plus de légitimité sur leur CV. Et le volontariat international, ben, c'est vrai que ça amène les deux. Une reconnaissance, ça permet de répondre aussi à ce besoin de donner du sens à son action. Et quand on est jeune, on a besoin de se sentir utile. Et c'est vrai que dans des pays vulnérables, comme le Vanuatu en particulier, c'était marrant parce qu'on s'est retrouvés, enfin c'était triste en même temps, au moment du séisme où quand l'ambassadeur de France sur place a dit besoin de rapatrier tous les volontaires de solidarité, ça n'a pas été évident pour laisser place à des volontaires humanitaires. Ça n'a pas été évident, c'était un choix qui n'est pas toujours compris par les volontaires qui s'étaient engagés. Mais bon, il y a des réglementations qui sont mises en place. Nous, dans le cadre de notre organisation, on s'assure qu'effectivement, les personnes puissent bénéficier de formations adéquates dans des conditions sine qua non pour pouvoir être sereines. Et là, elles sont toutes ravies de repartir.
Donc c'est une bonne nouvelle.
Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et on peut voir à combien elles sont quand même courageuses. Je dis elles, mais il y a aussi des garçons. Courageuses et mobilisées dans leur action et appréciées. Voilà.
Alors, Nathanaël le disait tout à l'heure, ça peut être aussi l'occasion d'envisager ensuite un parcours professionnel à l'étranger, dans la région ou ailleurs. Ça aussi, c'est une ouverture sur le monde qui est importante.
Ça fait naître des vocations. Alors, il y a la notion d'engagement parce qu'on parle de volontariat. Et puis, il y a des jeunes qui ont quand même une volonté de mobilité. Et c'est vrai que j'en parlais aussi avec Alexia, pour qui ça a donné le goût aussi de s'ouvrir aussi à d'autres opportunités à l'échelle internationale. Il ne faut pas oublier que ça t'apporte une expérience technique, mais ça t'apporte aussi un changement d'ouverture et de vision du monde à partir du moment où tu te confrontes à une autre réalité. Et la troisième chose, c'est que ça leur apporte le bichlama, l'anglais, et pour Alexia, elle a vraiment encore plus progressé en anglais, parce que c'est vrai que l'Alliance française t'oblige aussi à faire l'appui pédagogique du français à des anglais. Donc, imagine la gestion de la langue au quotidien. Donc, c'est vraiment des atouts techniques, personnels, professionnels, qui créent forcément des mouvements. Donc, souvent, c'est partir pour mieux revenir. Des fois, c'est aussi partir pour des parcours de solidarité. Il y a des gens qui se lancent là-dedans. Donc, quelle que soit l'histoire de chacun, je sais que ça laisse une trace indélébile, le fait d'avoir fait un volontariat dans sa vie.
Comment vous les accompagnez, ces jeunes volontaires qui partent du recrutement jusqu'à la mission et jusqu'à la fin de mission? Vous arrivez à les accompagner, à les suivre? Parce que ce n'est pas forcément évident de partir du territoire.
Oui, alors il y a tout un processus effectivement de recrutement. On n'en a pas trop parlé, mais elles ont été recrutées par les structures associatives elles-mêmes en fait. Elles ont passé des entretiens à distance avec la Nouvelle-Zélande, avec le Cambodge pour ceux qui étaient partis au Cambodge cette année, avec le Vanuatu. Donc chaque autorité, chaque institution, chaque organisation crée des entretiens avec les volontaires. Puis par la suite, nous, on les accompagne sur la partie administrative et notamment des passeports, de l'assurance qui va bien. Puis la partie préparation technique au départ, il y a tout un stage qui est mis en place, qui dure une semaine, qui est prévu fin mars, là, cette année. Donc là, on lance des recrutements pour un stage de préparation au départ qui aura lieu fin mars et du coup, des départs qui auront lieu en avril-mai. Donc il y a tout ce déploiement, toute cette préparation qui se fait pendant quasiment 2 mois et demi. Et ensuite, sur place, on a des appuis avec les autorités locales. Donc, ça peut être le délégué de la Nouvelle-Calédonie, ça peut être l'ambassade de France qui, pour nous, est un réel atout aussi. Et aussi, on a un volontaire d'appui de France Volontaire qui travaille pour nous et qui accompagne nos volontaires, par exemple, au Vanuatu, sur place.
Et comment ça se passe pour les volontaires qui sont sur un même secteur? On le sait, là, il y a par exemple 9 missions. Il y en a 2 en Nouvelle-Zélande pour cette année, 7 au Vanuatu. Est-ce que vous arrivez à vous voir en dehors de vos missions, peut-être à échanger, à partager des expériences, même si vous n'êtes pas sur les mêmes types de missions?
Oui, c'est l'occasion de mieux se connaître. De toute façon, on se voit régulièrement. Je pense qu'on s'est déjà, on a pu apprendre à se connaître pendant le stage, la semaine de stage. Et donc se retrouver dans nos missions après, c'est toujours bien. Et on essaye de participer à des événements localement, à rencontrer des gens sur place ensemble. Et oui, on se côtoie tous.
Vous arrivez à avoir du temps libre un petit peu en dehors de vos missions, justement pour découvrir l'endroit dans lequel vous êtes, le pays?
Oui, on s'organise souvent les week-ends et tout pour pouvoir... aller visiter les endroits les plus touristiques qui sont sur l'île et tout. On s'organise entre nous, les volontaires, ou sinon avec d'autres personnes, nos collègues qui sont dans nos structures et ceux qui connaissent le mieux les endroits. Et du coup, ça fait une riche expérience quand même.
C'était pareil en Nouvelle-Zélande ?
C'est pareil en Nouvelle-Zélande. Donc j'étais avec un autre volontaire, Anthony. On était accueillis par la même structure. Donc on se voyait tous les jours et puis on a créé des liens forts. On se tirait toujours vers le haut parce qu'on avait tous les deux un peu le mal du pays au début. Mais après, le fait d'être ensemble, d'en parler, ça fait du bien. Du coup, non, j'étais contente d'être en mission avec quelqu'un d'autre dans la même structure.
Et en plus, c'est une mission qui est pérennisée, c'est ça? On la retrouve l'année prochaine aussi, il y aura un volontaire qui va intégrer cette structure?
Elle fait partie de la liste des missions de recrutement à l'heure actuelle. Donc il y a 2 missions pour l'Alliance française, une mission en appui pédagogique et culturel et une autre en appui culturel à la médiathèque. Et c'est des missions avec cette organisation avec laquelle on a un partenariat depuis 6 ans maintenant. J'ai peut-être pas assez précisé aussi l'importance des autorités locales, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui est notre partenaire depuis 2012 et avec qui on a re-signé un partenariat spécifique cette année qui porte haut et fort la bannière du programme service volontaire océanien. Donc en fait, ces jeunes demoiselles font partie aussi de ce dispositif-là. On a des partenariats aussi avec les provinces, province sud, province île, province nord, là, pas récemment, mais on souhaite renouveler des possibilités. Ça va dépendre aussi des possibilités de priorité et de politique jeunesse à l'heure actuelle, parce qu'on sait que la situation n'est pas si évidente. Mais on a différents programmes et on souhaite aussi développer de la coopération avec le réseau de partenaires qu'ont les collectivités et locales aussi. C'est quelque chose qu'on souhaite développer. Et on souhaite aussi accueillir des volontaires, notamment du Vanuatu. Ça fait partie des projets 2025.
Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais ça pourrait le devenir.
Ça n'a pas été développé. Et voilà, c'est ce que j'essaye de développer dans nos objectifs 2025-2026. Ça va dépendre aussi des possibilités. Mais l'objectif du volontariat, et ça fait partie des principes du volontariat international qui sont portés haut et fort par France Volontaire, c'est la notion de réciprocité. Donc il y a la citoyenneté, l'engagement et la réciprocité. On développe aussi des partenariats avec Fidji. On espère que ça va bouger. On a pas mal de Fidjiens là qui vont partir notamment sur la métropole, mais on aimerait bien qu'il y en ait qui viennent aussi en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, on travaille en collaboration dans un écosystème où on essaye de créer des liens en fait.
Oui, justement, c'est aussi un moyen d'intégrer davantage la France et la Nouvelle-Calédonie dans le bassin régional.
Exactement, exactement. Et il y a un consensus assez naturel qui se fait. En tout cas, j'en ai l'impression de la part de, on va dire, tout bord politique, c'est-à-dire quelles que soient les personnalités que j'ai pu rencontrer, on sent bien cette volonté de coopérer ensemble et de favoriser la mobilité et l'engagement pour les Calédoniens et les Calédoniennes.
Donc ça, c'est un avantage vraiment pour le territoire aussi, pour pouvoir rayonner.
Exactement. Ça permet un rayonnement de la Nouvelle-Calédonie. Elles sont là pour tisser des liens, en fait. Et les liens, ben, c'est des liens humains. Et ça passe par des volontaires qui puissent bouger, qui puissent revenir. Elles vont se créer un réseau, si ce n'est pas déjà le cas. Et ça peut être un réseau amical, ça peut être un réseau personnel, un réseau professionnel. Et une fois qu'il est créé, ben ça vient consolider quelque chose qui est déjà co-construit.
Si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une mission de volontariat international comme celle que vous avez pu mener, quel serait ce conseil ? Qui veut répondre autour de la table ? Alexia, bien partie.
Ah, yes.
Il faut bien une qui commence.
D'accord, ben, je dirais qu'il faut pas avoir d'appréhension, il faut tenter le coup, même si on a peur, il faut dépasser les craintes pour dépasser ses craintes et postuler, ça coûte rien. Et puis, à la fin, tu peux avoir beaucoup d'opportunités, une belle expérience, de faire de bons amis aussi et créer aussi un réseau professionnel, avoir de bons contacts. Donc, c'est simple, ça ne prend pas beaucoup de temps, donc il faut y aller.
Avec la difficulté, on l'évoquait tout à l'heure, de quitter la Nouvelle-Calédonie, d'être loin de ses proches, comment on surmonte ça à ces moments-là ? Est-ce que ça peut faire peur ? Ça peut être un frein aussi chez certaines personnes ?
Oui, c'est vrai que ça fait peur. Mais bon, l'avantage, c'est que la Nouvelle-Zélande, c'est juste à côté. Donc, il n'y a pas à s'en soucier. Mais aujourd'hui, on a la technologie et ça aide beaucoup. Par exemple, quand j'avais des gros coups de morale où je me sentais pas bien, un petit peu de messenger, on appelle la famille, et après on est reboosté, on y retourne.
Oui, donc ça passe vite.
Ça passe vite.
Bon. Si vous, toutes les deux, vous aviez des conseils peut-être pour postuler pour une mission sur le Vanuatu, ce serait quoi ?
Peut-être pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Au Vanuatu, on se sent vite... on n'est pas chez nous, mais on se sent quand même vide. Il y a un sentiment, une sensation d'être à la maison parce qu'il y a quand même beaucoup de similitudes dans la culture, dans les échanges qui sont assez faciles entre les gens. Voilà, c'est des gens des îles et on en est aussi. Je pense qu'il ne faut pas hésiter et il ne faut pas forcément se bloquer parce que c'est un volontariat. On a tendance à sortir peut-être des études et vouloir tout de suite travailler et c'est très bien. Mais un volontariat, c'est aussi une belle opportunité d'avoir une grande latitude dans ce qu'on explore professionnellement et de se faire un réseau qui va être peut-être différent de celui qu'on se serait fait en commençant directement en Nouvelle-Calédonie.
Nathanaël, vous seriez prête à recommander le volontariat international à quelqu'un ?
Oui, bien sûr, absolument. Parce qu'on fait de belles rencontres et... on a une autre vision de voir les choses après quand on revient ici en Nouvelle-Calédonie et par rapport au Vanuatu. Mais c'est une riche expérience à le faire. Et si les autres volontaires, les futurs volontaires ont cet esprit de curiosité, il faut foncer vers l'inconnu, quoi.
Alors justement, pour ceux qui auraient cet esprit de curiosité et qui souhaiteraient s'engager dans une mission, c'est le moment de postuler. Concrètement, la marche à suivre, c'est quoi ?
Ben, concrètement, c'est d'aller sur le site internet de France Volontaire, de cliquer sur là ou les missions qui sont susceptibles de nous intéresser, d'envoyer son CV, sa lettre de motivation. Voilà, on arrive sur une petite boîte mail qu'on va traiter en collaboration avec la province des îles sur cette nouvelle vague-là et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, notamment les directions jeunesse de ces deux autorités. À partir de ce moment-là, on va reprendre contact avec vous. Ça, c'est la première possibilité. Vous pouvez aussi suivre toute notre actualité sur notre page Facebook. On va détailler chaque mission, on met des résumés, on met des petites vidéos, voilà, avec un peu plus d'informations sur chaque annonce pour que vous ayez une meilleure vision des profils et des possibilités. J'invite le maximum de jeunes intéressés et susceptibles pour se positionner, si l'engagement, si la Nouvelle-Zélande, si le Vanuatu, et surtout si les thématiques abordées qui sont la culture, la musique, l'agriculture, vous parlent, il y a pas mal de possibilités. Ne vous laissez pas trop impressionner par la fiche de mission, qui peut sembler impressionnante au premier abord. Tentez votre chance. De toute façon, on prendra le temps de vous faire un retour.
Vous faites une première sélection avant ces fameux entretiens avec les structures locales ?
Oui, on fait une première sélection et en fait, c'est nos partenaires des directions jeunesse, aussi bien des îles là, et du gouvernement, qui vont nous appuyer dans la présélection. On a en fait une seule base de candidature et puis on se la répartit, on fait un tableau. Alors oui, les compétences sont importantes, mais pas que la mobilisation, la motivation, les centres d'intérêt. Comme je disais, on a déjà quelqu'un qui est dans des parcours associatifs très importants, qui est déjà peut-être sensibilisé au développement durable ou déjà engagé dans des structures locales. C'est des profils qui sont aussi susceptibles de nous intéresser. Ceux qui sont peut-être déjà aussi à l'aise avec l'anglais. Ça peut être aussi un atout, qui aimerait améliorer leur niveau linguistique. Ça peut être aussi une belle opportunité. Voilà.
Les volontaires sont rémunérés, peuvent vivre sur place. Comment ça se passe finalement, ce côté-là ?
Oui, ils reçoivent une indemnité. Alors, au terme de prise en charge, billets d'avion et on va dire accompagnement du transport, de la mission, de leur logement est pris en charge et ils ont une indemnité locale. Pour subvenir à leurs besoins. Je vous laisse peut-être en parler. Est-ce que ça subvient à vos besoins ?
Oui, pour. Oui, on perçoit l'indemnité pour notre mission. Donc, ça permet de nous. De subvenir à nos besoins, tout ce qui est alimentation, peut-être aussi ameublement, sortie surtout. Et puis.
C'est à peu près autour de 100 000 francs pacifiques, c'est ça ?
Oui, 100 000 francs pacifiques, c'est suffisant pour vivre au Vanuatu, surtout quand on est seul.
La rémunération dépend finalement de la structure et du pays d'accueil ?
Oui, ça dépend aussi du pays d'accueil et du niveau de vie dans chaque pays d'accueil, oui.
D'accord. En Nouvelle-Zélande, c'était, je suppose, un petit peu plus ?
En Nouvelle-Zélande, on a un accord différent, c'est que le partenaire prend totalement en charge la partie logement.
D'accord. Donc là, après, il ne reste plus que l'argent pour les sorties, comme on disait, etc. Bon, si on veut postuler, il y a une date quand même un peu butoir, même s'il y aura peut-être une petite prolongation, mais en tout cas, c'est jusqu'au 1er février pour postuler.
Exactement. 1er février pour postuler. Il n'est pas impossible qu'il y ait une autre vague de recrutement dans le deuxième semestre, mais pour l'instant, voilà, sur cette vague de recrutement et sur ces missions-là, en tout cas, c'est jusqu'au 1er février.
CV, lettre de motivation,
ça CV, lettre de motivation en ligne, simplement.
Bon, très bien. Bah, merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous parler de ces différents dispositifs, puisqu'on l'a compris, il y a différents dispositifs qui sont en place. Merci à toutes les quatre.
Merci.
Merci
à vous.
Merci, Hervé.
Une émission que vous pourrez retrouver en réécoute à tout moment, d'ailleurs, sur notre site internet, le www.rrb.nc. Dans un instant, la suite de votre émission dans le 11-13, c'est le Café Gourmand. Et puis, le dernier point sur l'actualité du 11-13, ce sera le Flash à 13h.